Voici une question dont la réponse nous instruira énormément. Quelles sont les qualifications d'un ancien dans une église? Le grand livre de Dieu va nous donner une réponse bien détaillée aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, on va tous avoir une confirmation aujourd'hui à savoir si les anciens dans nos églises sont réellement appelés de Dieu. Voici donc les questions qu'on va poser à l'épître de Paul à Tite. Est-ce qu'on peut regarder dans le passé, dans le présent et dans le futur quand il est question de la grâce de Dieu? Est-ce que Dieu peut mentir? Qui a donné l'ordre à l'apôtre Paul de proclamer la parole de Dieu? Pour être ancien dans une église, est-ce que ça prend des dons spéciaux? Quand la Bible dit qu'un ancien doit être mari d'une seule femme, que veut-elle dire au juste? Est-ce que les enfants d'un ancien doivent être sauvés? Quelles sont les qualifications d'un ancien? Est-ce qu'une église devrait avoir un seul ancien? Demeurez des nôtres, on va recevoir les réponses à nos questions par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais premièrement, demandons à Dieu qu'il dispose nos cœurs à recevoir cet enseignement dans le but de le glorifier davantage dans chacune de nos vies. Prions. Oui, Seigneur, on sait qu'en te connaissant davantage, on peut mieux te glorifier, on peut réellement avoir une vie qui t'honore. Et c'est notre désir, Seigneur. Alors enseigne-nous aujourd'hui. Enseigne-nous ce qui te plaît et ce qui te déplaît, afin qu'on puisse choisir ce qui te plaît pour que tu sois vraiment glorifié. Touche nos cœurs par ta parole, Seigneur. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons introduit l'épître de Paul à Tite. Nous avons souligné que Paul parle avec l'autorité du Seigneur Jésus, puisqu'il était un apôtre. Cette épître n'est pas seulement un message aux églises que Tite servait, mais elle est aussi destinée à nos églises contemporaines. Nous avons vu trois caractéristiques d'une église locale idéale. Premièrement, elle est bien organisée, et elle fait tout avec ordre et discipline. Deuxièmement, sa doctrine est saine, c'est-à-dire conforme à la parole de Dieu. Troisièmement, l'Église locale idéale est prête à accomplir toute bonne œuvre. Nous avons aussi souligné le fait que la vérité, lorsqu'elle est reçue, transforme les vies. Nous avons ensuite terminé l'émission en vous demandant si vous faisiez partie de l'Église, qui est l'ensemble des véritables croyants. Pour faire partie de cette Église, il faut recevoir le Seigneur Jésus comme sauveur personnel. Puis, nous vous avons encouragé à vous joindre à une église locale qui enseigne la Bible, car l'Esprit nous donne des dons et il nous demande de les utiliser pour servir son Église. Chers amis, débutons notre lecture, Tite chapitre 1, versets 1 et 2. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. La grâce de Dieu touche le passé, le présent et le futur, l'espérance de la vie éternelle. La foi et la connaissance de la vérité reposent sur l'espérance de la vie éternelle. Dans l'épître de Tite, nous voyons que l'apôtre Paul parle de la grâce de Dieu en portant nos regards sur le passé, le présent et le futur. Dans Tite, chapitre 2, versets 11 à 13, nous voyons les trois temps. La grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée dans le passé. Présentement, elle nous enseigne en attendant la bienheureuse espérance qui se manifestera dans le futur. L'espérance de Paul est l'espérance de la vie éternelle et il dit que nous devons nous appuyer sur cette espérance. Dieu est le Dieu de vérité qui ne ment point. Par le Dieu qui ne ment point, notre espérance est garantie par un Dieu qui ne peut pas mentir. Paul a dit que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Romains chapitre 3, verset 4. Parfois, nous les croyants, nous faisons presque Dieu menteur par notre façon de vivre. Nous affirmons croire quelque chose alors que ce n'est pas vraiment le cas, et nous agissons comme si nous le croyions pas. Paul dit que Dieu ne peut pas mentir. J'ai déjà pensé à prêcher un sermon au sujet de ce que Dieu ne peut pas faire. Ceci serait une des choses mentionnées. Dieu ne peut pas mentir. Saviez-vous qu'à chaque jour, vous voyez quelque chose que Dieu ne peut pas voir? Vous rencontrez votre égal, quelqu'un d'aussi compétent ou doué que vous. Dieu n'a jamais vu son égal. Pourquoi Dieu ne peut-il pas mentir alors que nous pouvons le faire? Eh bien, vous pouvez faire quelque chose que Dieu est incapable de faire. Dieu doit être fidèle à lui-même. Il est juste et saint. C'est dans sa nature d'être ainsi. À cause de sa nature, il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire. Ce n'est pas parce que la chose est impossible pour lui, mais il est fidèle à sa nature et il ne peut donc pas la faire. Il est juste et saint. Il ne ment donc jamais. Vous pouvez compter sur Dieu. Promise avant tous les siècles, cette promesse a été faite dans l'éternité. Verset 3. Et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. En son temps, Dieu agit avec ordre et son univers fonctionne dans l'ordre. Les arbres fruitiers fleurissent au printemps et non à la première chute des neiges. Dieu a aussi exécuté son plan salvateur en respectant un calendrier établi avec sagesse. Paul a reçu de Dieu la tâche de proclamer la parole divine. Et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication. Le mot grec traduit prédication est kérugma. C'est un mot de la famille kérux qui signifie héros, crieur public ou trompette. Le kérugma est la proclamation d'un héros ou d'un crieur public. Une trompette était utilisée pour faire une proclamation. Un trompettiste attirait l'attention de la foule et ensuite il faisait l'annonce. C'est l'idée que nous avons dans ce verset. Paul dit que Dieu, au moment approprié ou choisi, a manifesté sa parole en la proclamant. Il ajoute que la tâche de proclamer la parole lui a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Verset 4. À Tite, mon enfant légitime, en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. À Tite, mon enfant légitime, ou mon véritable fils. C'est Paul qui a conduit Tite à une foi salvatrice en Christ Jésus. Tite était le fils spirituel de l'apôtre Paul. En notre commune foi. La foi commune est la foi que tous partagent, que tous les croyants doivent avoir. C'est une foi vivante en Christ Jésus. Que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. La grâce de Dieu a été manifestée, et Dieu exerce sa miséricorde envers nous aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui en est de vous. Mais je profite d'une bonne part de la miséricorde de Dieu. Je le remercie de ce qu'il est bon envers moi et qu'il n'agit pas selon mon entêtement et ma désobéissance. Il a été bon envers moi. La grâce et la paix. Le croyant possède présentement la paix, mais il en viendra une aussi lorsque le prince de paix reviendra. Tout cela vient de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Passons au verset 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. L'apôtre Paul a laissé Tite en Crète afin qu'il mette en place dans les églises locales des anciens qui seront les chefs spirituels des églises. L'île de Crète est une des plus grandes îles de la Méditerranée. Cette île a sa mythologie et ses traditions, comme c'est généralement le cas avec les îles grecques. Selon la tradition, le roi légendaire Minos est le premier à avoir promulgué des lois pour les Crétois. Il a conquis les pirates qui occupaient l'île et il y a développé une marine. Après la guerre de Troie, les principales villes de l'île ont formé des républiques indépendantes. La Crète a été annexée à l'Empire romain en l'an 67 avant Jésus-Christ. Les villes principales étaient Knossos, Sidonie et Gortyne. Il semble qu'il y ait eu une église dans chacune de ces villes. Paul semble avoir eu un ministère efficace sur l'île, mais rien n'est rapporté dans la Bible à ce sujet. Nous n'avons aucune preuve que l'apôtre Paul soit allé à Crète avant son voyage à Rome. Cependant, cet épître nous indique qu'il y est allé et qu'il y a laissé Tite pour finir d'organiser les églises qu'ils ont fondées. À cette époque, la Crète et ses habitants n'avaient pas la meilleure réputation. Paul lui-même a dit qu'ils étaient menteurs. En fait, les Crétois étaient reconnus pour mentir. Pour dire qu'une personne était menteuse, on disait qu'elle parlait comme un Crétois. Lorsque Paul parlera des Crétois, nous verrons que mentir n'était pas leur seul défaut. Cependant, plusieurs se sont tournés vers le Seigneur, et l'apôtre Paul donne des instructions à Tite afin qu'il les aide à organiser leurs églises. Pour être ancien, il faut en avoir reçu le don. Afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Il faut avoir reçu le don pour devenir un ancien dans une église. Imposer les mains à une personne au cours d'un petit rituel n'en fait pas un ancien ou ne la qualifie pas pour le poste. Cependant, je crois qu'il est important de le faire pour ceux qui ont le don d'être anciens. En effet, tous reconnaissent qui ils sont. Je pense que les églises en Crète avaient des anciens, mais ils n'avaient pas encore été officiellement mis à part pour leur ministère. Ils avaient le don de superviser les églises, mais ils exerçaient leur don sans que leur autorité soit reconnue. Tite doit désigner et mettre à part des anciens dans chaque ville. Tout comme l'apôtre Paul a désigné Tite pour sa tâche, il doit établir des anciens dans toutes les villes et les églises. L'homme qui occupe le poste d'ancien devrait avoir les dons pour le faire. Il arrive que des hommes soient nommés ou élus à ce poste, bien qu'ils n'aient pas les dons ni les aptitudes nécessaires. Cela cause la moitié des problèmes dans une église, et l'autre moitié est causée par le fait que les hommes qui devraient être là ne le sont pas. Des églises se retrouvent dans le pétrin et avec de sérieux ennuis. Voici les qualifications pour devenir un ancien. Verset 6. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle. Irréprochable. Cela ne veut pas dire qu'il doit être parfait et sans péché, sinon personne ne serait qualifié. Cela signifie que si quelqu'un porte une accusation contre lui, l'enquête doit révéler qu'elle est non fondée. Sa conduite doit être irréprochable. Lorsque quelqu'un peut pointer du doigt un pasteur, un ancien ou un diacre et l'accuser d'être malhonnête, cela fait du tort à l'œuvre du Seigneur Jésus si l'accusation est prouvée. Bien qu'un homme puisse avoir des talents naturels, si ses paroles ne démontrent pas une consécration au Seigneur Jésus, alors il fait du tort à l'œuvre et cet homme ne devrait pas occuper un poste d'ancien. Que signifie « mari d'une seule femme » ? Certains exégètes affirment que l'apôtre Paul réfère à la polygamie qui était courante à l'époque, et d'autres pensent que cela signifie aussi qu'une personne divorcée et remariée ne peut pas occuper un poste d'ancien. La polygamie était courante à l'époque, même parmi les Juifs. Paul indique clairement qu'un ancien ne pouvait pas avoir plusieurs femmes. Il devait être le mari d'une seule femme. Il ne pouvait pas les collectionner ni avoir des concubines ou des maîtresses. Lorsque les disciples ont questionné le Seigneur Jésus au sujet du divorce, il a dit qu'un couple ne pouvait pas divorcer et ni les conjoints remarier une autre personne, sauf s'il y avait adultère. Donc, un homme instable qui change de femme ne peut pas occuper un poste d'ancien. Un homme qui a abandonné une femme qui n'a pas commis l'adultère pour en prendre une autre, ne peut pas devenir ancien ou pasteur. Comment pourrait-il aider quelqu'un avec des problèmes maritaux, alors qu'il a été incapable de maintenir et d'approfondir une relation avec sa première femme? Par contre, si un homme est fidèle au Seigneur et à sa femme, et que celle-ci le quitte malgré tout, s'il tire des leçons de cette expérience et qu'il continue à grandir spirituellement par la grâce de Dieu, il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas devenir ancien. Cependant, il ne faut pas le faire avant que sa croissance spirituelle soit évidente. Certaines églises définissent une période de temps avant que la personne puisse avoir un poste, mais là, c'est aller trop loin. Ce n'est pas à nous de décider du calendrier de Dieu pour la croissance spirituelle ou la restauration d'une personne, surtout qu'il ne fait pas de travail à la chaîne avec nous. Il a plutôt un plan taillé sur mesure pour chacun de nous. Surveillons plutôt pour voir l'œuvre du Seigneur dans le cœur d'une personne. Lorsqu'il est évident que la grâce de Dieu a préparé cette personne pour un poste d'ancien, il ne faut pas lui fermer la porte. Les enfants d'un ancien doivent-ils être sauvés? Mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles. Dans les Épîtres à Timothée, Paul a dit, « Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ?» 1 Timothée chapitre 3, versets 4 et 5. La question des enfants est difficile. Certains affirment que si les enfants d'un homme ne sont pas convertis, il ne peut pas devenir ancien. Cependant, il y a un problème avec cela. Un pasteur ou un ancien ne peut pas changer le cœur de ses enfants. Seul l'Esprit Saint peut faire cela. Les enfants du prophète Samuel, un homme de Dieu, n'ont pas suivi les traces de leur père. Un chrétien peut cependant élever ses enfants dans la soumission et l'honnêteté sans qu'ils se convertissent. Ses enfants peuvent devenir adultes, se marier, avoir une vie honnête et rangée sans se convertir. Cet homme chrétien est qualifié pour devenir ancien car il a su diriger sa maison. Seul l'Esprit peut convertir ses enfants. Il faut aussi regarder l'ensemble de la situation. Supposons qu'un homme chrétien ait plusieurs enfants et qu'ils tournent tous bien, sauf un. Peut-on le disqualifier pour le ministère et affirmer qu'il ne sait pas diriger sa maison? Je ne le crois pas. Cet homme a pris ses responsabilités, mais il ne peut pas changer le cœur de son enfant. Le mot grec « pistos » traduit « fidèle » peut avoir le sens de se montrer fidèle dans les transactions d'affaires, l'exécution des ordres, l'accomplissement des devoirs officiels. Ceci implique une vie honnête et rangée. Par contre, s'il est évident que les enfants d'un homme chrétien lui sont insoumis, qu'ils sont rebelles et débauchés, alors cet homme n'est pas qualifié pour être un ancien. Il ne peut pas tenir un poste ou on lui demandera des conseils pour résoudre des problèmes familiaux. Quelqu'un qui ne peut pas diriger sa famille ne pourra pas davantage diriger l'église locale. Verset 7. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux. Les qualifications d'un ancien. Ceci est très pratique. Dans la Bible, évêque et ancien sont des synonymes. Un évêque ne doit pas être arrogant ou orgueilleux, car il est un administrateur pour les affaires de Dieu et il représente aussi le peuple de Dieu. Il est à son poste pour déterminer et accomplir la volonté de Dieu. Il n'est pas là pour promouvoir ses propres intérêts. Le texte poursuit en précisant « ni colérique ». Une personne colérique, une personne qui se sert de la colère pour contrôler son entourage, n'est pas qualifiée pour la charge d'évêque ou d'ancien. En fait, les personnes colériques adonnées au vin et violentes ne savent pas comment résoudre leurs problèmes personnels et ne savent pas communiquer avec les gens. Elles masquent probablement leur insécurité et n'ont donc pas la maturité spirituelle nécessaire pour diriger une église. Ni adonnées au vin. Le mot grec pour cette expression est paronos. Il signifie ivrogne. Nous parlons donc d'un usage abusif de l'alcool. Un pasteur ou un ancien ne devrait jamais s'enivrer. Par contre, la Bible n'interdit pas totalement l'usage du vin. Paul a recommandé à Timothée d'en prendre pour son estomac. Et le Seigneur Jésus a changé l'eau en vin aux noces de Cana. Certains se fondent sur l'usage du mot vin dans l'Ancien Testament pour affirmer que le Seigneur Jésus a fait du vin non alcoolisé aux noces de Cana. Ils se fondent sur le fait que dans certains versets de l'Ancien Testament, le mot vin ne peut pas signifier un breuvage alcoolique. Cependant, l'usage du mot vin dans la langue hébraïque ne correspond pas exactement à l'usage du mot vin dans la langue grecque. Le contexte suggère que le Seigneur a transformé l'eau en véritable vin. Le péché ne se trouve pas dans le vin lui-même, mais dans le cœur de l'homme qui en fait un usage abusif. Par contre, la Bible interdit clairement l'ivrognerie et l'usage abusif du vin et des boissons alcooliques. Un ancien qui fuit la réalité dans l'alcool ne peut pas aider une autre personne à résoudre ses problèmes. Ni violent. Celui qui contrôle sa famille et son entourage par la violence n'est pas qualifié pour devenir ancien. La violence laisse des marques indélébiles dans le cœur et l'âme des victimes. Seul le miracle de la grâce de Dieu peut les effacer. Un ancien est là pour aider les brebis de Dieu à croître spirituellement, non pour les marquer par son comportement violent. Ni porter à un gain honteux. Il ne doit pas convoiter les richesses ou le bien matériel. Il ne doit pas profiter de sa position pour s'enrichir au détriment des brebis que Dieu lui confie. Une personne attachée à l'argent le demeurera si on lui confie un poste d'ancien. L'ouvrier a droit à un juste salaire, mais il n'est tout de même pas là pour faire fortune. Voilà ce que sont les qualifications d'un ancien ou d'un évêque. Dans le texte grec, le terme « ancien » réfère à l'individu et le terme « évêque » à la fonction. L'évêque est un superviseur et un ancien, une personne mature spirituellement. Cependant, une église ne devrait pas avoir un seul ancien. Dans l'église néo-testamentaire, on désignait plusieurs anciens dans une église. Mes amis, aspirez-vous à devenir pasteur ou ancien? Alors, je vous invite à vous examiner attentivement. Ne prenez pas un tel poste avant d'avoir les qualifications spirituelles requises. Lorsque nous prenons un poste de pasteur ou d'ancien pour notre gloire personnelle, pour nous valoriser, ou pour toute autre raison égoïste, il faut s'attendre que tôt ou tard, Dieu interviendra. Si par orgueil ou par ambition vous prenez le contrôle d'une église, si vous vous en prenez à un pasteur placé là par Dieu, attendez-vous à goûter votre propre médecine. Rappelez-vous que nous récoltons ce que nous semons. C'est un principe biblique que nous voyons dans plusieurs sphères de ce monde. Tu récoltes ce que tu sèmes. Sème le mal et tu en récolteras le mal. Prochaine émission, Tite chapitre 1, les versets 8 à 16. À vous tous, je vous souhaite bonne lecture.
Merci, Régent. Mes amis, on a bien vu les qualifications d'un ancien au cours de l'enseignement qu'on a reçu aujourd'hui. Et je remercie le Seigneur d'avoir placé plusieurs anciens dans l'église locale où je me trouve. Ça nous épargne bien des dangers. Ils sont tous redevables les uns envers les autres, ce qui les garde dans l'humilité et les amène à réellement chercher le conseil de Dieu dans toutes les décisions à prendre pour le bien de l'église. Maintenant, mes amis, j'aimerais retourner au début de l'enseignement que Régent nous a donné aujourd'hui, parce que ça m'a vraiment encouragé. C'est dans le premier chapitre de l'épître de Paul à Tite, aux deux premiers versets, où Paul dit que la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment pas. Quelle belle espérance, mes amis, vous trouvez pas? Avant tous les siècles, donc avant même que la terre existe, Dieu a fait la promesse de la vie éternelle, et il ne ment jamais. Pourtant, mes amis, Dieu savait qu'on serait tous des pécheurs, qu'on serait tous indignes de passer l'éternité dans sa présence, lui qui est trois fois saint. On n'aurait même pas pu nous offrir nous-mêmes en sacrifice, puisqu'on aurait été des sacrifices imparfaits. Mais Dieu a pourvu un sacrifice parfait pour pouvoir pardonner nos péchés. Et ce sacrifice parfait, c'est Jésus, son Fils bien-aimé. Ça me fait penser au 22e chapitre du livre de la Genèse, où Dieu a demandé à Abraham d'immoler son fils. Et on sait que Dieu n'a pas permis qu'il le fasse. Il est intervenu à la dernière minute. Et le verset 8 de ce chapitre nous dit que Dieu s'est pourvu lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Quelle belle figure de Jésus! Le prophète Ésaïe nous le décrit justement au chapitre 53, verset 7, en disant ceci. « Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. » Et le verset 12 nous dit qu'il s'est livré lui-même à la mort, qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Voici mon espérance, mes amis. Avez-vous tous cette même espérance? Je l'espère pour chacun de vous. Jésus a été le sacrifice parfait pour l'expiation de nos péchés. Il s'est livré lui-même en sacrifice pour nous. S'il n'avait pas voulu, les hommes n'auraient jamais pu mettre la main sur lui et le clouer sur cette croix. Oh, merci Seigneur Jésus. Et toi, mon ami, est-ce que tu vois que ce que Jésus a accompli sur la croix, c'est aussi pour toi qu'il l'a fait? Crois-tu en Jésus? Crois-tu qu'il est Dieu et qu'il s'est fait homme afin de mourir en sacrifice pour tes péchés? Quand il est venu sur la terre, Jean-Baptiste a dit ceci de lui. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Mon ami, aujourd'hui, Jésus, l'agneau parfait de Dieu, t'offre le pardon de tes péchés et le don gratuit de la vie éternelle. Alors, mon ami, repens-toi, change de direction à l'égard du péché et demande à l'agneau de Dieu de te sauver, de te donner la vie éternelle. Tu vas devenir sa brebis, tu vas devenir un enfant de Dieu pour l'éternité.
Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer.
Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que, toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous, il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer, puis tu vas le comprendre. Aussi simplement que ça.
Nous avons des gens disponibles en tout temps.
Ils vont parler avec toi, ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions.
Et tu pourras parler librement. On est là pour t'écouter.
Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire. Et si tu es souffrant, bien c'est le temps de le partager avec nous. Parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi.
Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée.
Oui. Fais-toi connaître. Et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux. Appelle.
Pour nous rejoindre, au téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Ou à notre adresse courriel.
www.radioespoir.ca. Ou à l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.